Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus, afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Darcy accueille au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Raise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre, co-founder et MD chez Virtuose, notre cabinet dédié à l'executive search. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Bénard, CPO chez Miracle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Darcy, bonjour Pierre, merci de me recevoir.
Bonjour Isabelle, on est ravis de t'accueillir chez nous pour ce nouveau podcast et merci beaucoup Darcy pour l'invitation.
Avec plaisir. On va commencer par une série de questions assez binaires. Pierre, je te laisse la main.
Avec plaisir. Effectivement, Isabelle, on a, pour s'échauffer, pourrait-on ainsi dire, une série de petites questions. Ça donnera à nos auditeurs l'occasion de peut-être t'imaginer ou mieux te connaître avant de partir dans le vif du sujet. Côté voyage, est-ce que tu es plutôt backpacking ou all-inclusive ?
Alors, les deux, je ne peux pas choisir.
Très bien, partagé entre les deux.
Ouais.
Côté sport, est-ce que tu es plus salle de sport ou cours collectif ?
Salle de sport.
Très bien. Le soir, en rentrant du boulot, plus Uber Eats un peu flemme ou la motivation de cuisiner des petits plats maison ?
Plutôt plats maison.
Très bien.
Tu es plutôt télétravail ou vacances illimitées ?
Télétravail.
Management technique ou manager coach ?
Manager coach.
Inclusion ou diversité ?
Inclusion.
Parfait.
Eh bien, écoute, super Isabelle, passons à une série de questions plus centrées sur toi, plus sérieuses. Question très classique que l'on pose à tout le monde et qui n'est pas forcément un exercice si simple que ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, quel a été ton parcours et puis aujourd'hui ce que tu fais ?
Je vais essayer de faire ça rapidement. Alors, déjà là-bas, je suis marseillaise. Je sais, ça ne s'entend pas, mais marseillaise, j'ai grandi à Marseille. Et après des études de commerce, en fait, j'ai rejoint assez rapidement Amazon, où j'ai passé presque 8 ans, où j'ai fait plein de choses différentes. Pas de produits, puis beaucoup de produits. Puis je suis partie à Singapour rejoindre une nouvelle entreprise, toujours spécialisée dans l'e-commerce. Et puis comme ça, je ne me suis pas arrêtée à ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le Canada ? Faire un plus 30 degrés, moins 30 degrés, ça peut être intéressant. Où j'ai rejoint une autre entreprise spécialisée dans le e-commerce également. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de sauter le pas dans le monde du logiciel et du SaaS. Et ça m'a donné le goût de continuer. Et puis, après quelques années à l'étranger, et on va dire Covid aidant un petit peu, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer en France. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Miracle, où je suis Chief Product Officer aujourd'hui depuis 2 ans et demi.
Super. On avait peut-être prévu de poser la question un petit peu plus tard dans le podcast, mais je rebondis tout de suite. Comment tu les avais connus, Miracle ? Comment ça s'était fait, cette opportunité ?
Écoute, c'est hyper intéressant parce que avant que je les rejoigne, en fait, j'avais commencé à réfléchir à rentrer en France, à imaginer quelles sont les sociétés qui me botteraient de rejoindre et voilà, qui seraient excitantes à pouvoir rejoindre. Et au moment où j'ai cette réflexion, Miracle fait sa première grosse levée de fonds, 300 millions, ils font la presse partout, je fais, ah, c'est intéressant. Et puis, bon, ils cherchaient personne, donc j'ai laissé un peu cette idée de côté. Et puis, bon, voilà, il n'y avait pas forcément les opportunités qui m'intéressaient. Je me suis dit, bon, je vais continuer mon aventure au Canada et puis on verra bien. Mais bon, si jamais, si Miracle un jour a un poste, ça pourrait être intéressant. Et quelques mois plus tard, il se trouve que j'ai été contactée justement par les investisseurs de Miracle que je connaissais un petit peu et qui m'ont mis en relation avec Philippe Corot, le cofondateur. Okay. Et à ce moment-là, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai passé des entretiens et puis le fit s'est fait.
Ok, c'était fait pour se faire, quoi. Et toi, un peu dans l'ombre au Canada, et eux qui t'avaient identifié, quoi.
Écoute, bon timing et la bonne opportunité au bon moment, on va dire ça.
Magnifique.
On va repartir un petit peu dans ton enfance. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie quand tu avais 8 ans?
J'avais deux choses qui m'intéressaient beaucoup. La première chose, c'est que moi, j'ai grandi dans un restaurant parce que mes parents avaient un restaurant à l'époque. Et donc, j'aimais bien l'idée de cuisiner pour les autres parce que voilà, ça fait plaisir, les gens sont contents. Et puis, on voyait les gens sourire quand ils mangeaient bien. Donc, j'avais envie de faire plaisir aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que quand même, la vie de restaurateur n'était pas facile. Ouais. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de se concentrer sur l'école et d'essayer de bien réussir à l'école. Et puis, j'aimais bien aussi bidouiller les trucs. Enfin, je n'étais pas très poupée, des choses comme ça, mais tout ce que je pouvais bidouiller, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, ce que c'était... comment fonctionnaient les choses plutôt électroniques. Et je me suis dit qu'un jour, je serais fabricante de robots. Je ne suis pas vraiment fabricante de robots aujourd'hui, mais je travaille quand même sur des sujets un peu plus techniques. Et voilà.
On s'en rapproche un peu plus.
Exactement, que chef de cuisine.
Ça fait une super transition pour notre prochaine question. On voulait te demander aujourd'hui sur quoi est-ce qu'on te fait le plus confiance, sur quoi tu as la sensation aujourd'hui qu'on t'a donné carte blanche. Alors j'imagine que ce n'est pas pour fabriquer des robots, on n'en est pas encore là. Mais c'était un petit peu ça le but de cette question, et comprendre aussi toi du coup comment est-ce que tu te sens valorisé aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens épanoui chez Miracle.
Écoute, je pense que la première chose, c'est que en moi, en tant que Chief Product Officer, donc je fais partie du COMEX, et c'est pas forcément quelque chose qui était courant en France, en tout cas, d'avoir non seulement un rôle technique dans le comité exécutif de l'entreprise, et surtout d'avoir quelqu'un qui soit vraiment représentant de la voix du client et des utilisateurs au sein de cette management team. Donc je pense déjà que c'est un peu quelque chose d'assez moderne par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres entreprises. Et le fait d'être dans cette management team, je pense que c'est la preuve d'abord de la reconnaissance de l'importance du rôle de product management dans une entreprise. Mmh. Et en particulier pour moi, c'est effectivement la possibilité de contribuer directement à l'établissement de la stratégie de l'entreprise, de s'assurer que finalement la stratégie commerciale, la stratégie de développement de l'entreprise soit complètement alignée avec celle du produit. Et je pense que c'est une très bonne façon de reconnaître aussi bien la fonction que ce que moi je peux apporter en tant que Isabelle dans l'équipe.
Super.
On est aussi là pour parler un petit peu de parité homme-femme. Tu m'avais dit que tu avais vu des différences notables entre tes pairs masculins et toi. C'est quelque chose qui arrive, c'est pas récurrent, mais ça arrive. Et qu'est-ce que tu ressens dans ces situations et comment tu les gères ?
En réalité, je vais te dire, je le ressentais beaucoup plus fortement quand j'étais plus jeune, parce qu'il y a la combinaison femme et jeune. Ouais. J'ai cette anecdote où... à l'époque où j'étais encore côté acheteuse de chez Amazon, où je reçois un de mes premiers comptes clés, quand je l'accueille à la réception, il me dit « Où est l'acheteur ? Où est le manager ?» alors que c'était moi qui venais voir. Et je ne suis pas sûre. Après, on peut mettre plein de suppositions qu'il aurait accueilli, qu'il aurait posé la même question à quelqu'un d'autre, si c'était quelqu'un de plus âgé ou un homme. Et effectivement, ce genre de biais en fait inconscient, parce qu'on s'attend à avoir certains stéréotypes sur certains rôles, ce n'est pas forcément parce que la personne a, des tendances sexistes ou quoi que ce soit, mais il y a des vrais biais cognitifs. Et quand on prend conscience de ça, ça permet aussi de prendre du recul sur la réaction des gens. Mmh. Ça permet aussi de pas se remettre en cause soi en tant que personne, mais justement de gagner en confiance en disant « je comprends la situation, je comprends que... » Beaucoup de gens ont des biais cognitifs qui ne sont pas forcément conscients, et du coup, de se réaffirmer. Et là, je pense qu'avec les années, ça ne me gêne plus vraiment aujourd'hui, ou même je ne le remarque plus vraiment, même si je peux l'observer. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'être en fait un peu rôle modèle, de dire en fait le bon comportement. Quand je remarque qu'on ne donne pas la parole à certaines personnes, surtout les jeunes femmes, je vais m'assurer que je vais interpeller cette personne-là, lui demander de prendre la parole et essayer, par l'exemple, de montrer aux autres qu'il faut être inclusif dans la façon dont on se comporte.
Merci.
Dans quelle expérience au fil de ta carrière, tu as peut-être vu le plus de biais cognitifs dont tu parles ou potentiellement de manque de parité homme-femme ou au sein de diversité?
Eh ben écoute, dans l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui, enfin, je pense que c'est... je ne vais pas donner de chiffres inconnus. Quand on regarde dans les départements tech, on a moins de 20% de femmes en moyenne dans les entreprises. Plus souvent que non, je suis souvent la seule femme autour de la table, enfin, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie de la tech de manière générale, parce qu'il n'y a pas assez de femmes en école d'ingénieur, parce qu'on n'incite pas suffisamment probablement les jeunes filles à aller vers ces voies-là. Et aujourd'hui, on le ressent. Et c'est vrai partout en Europe, c'est vrai dans tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, la tech n'est pas forcément un monde très accueillant de manière générale pour les femmes. Mais on voit que ça change. On voit qu'il y a des initiatives qui vont dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau, notamment de la tech française, pour essayer de corriger le tir. Mais c'est vrai que ça va prendre un peu de temps de se rééquilibrer.
Merci en tout cas pour ton analyse et puis ton... Bah, je ne peux pas parler de témoignage, mais c'est vrai qu'on le ressent forcément de plein fouet aussi côté cabinet de recrutement. Et c'est typiquement pour ça qu'on avait lancé ce podcast. Et encore merci de venir, de pouvoir... On voit que ça bouge et qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu sur cette première partie du podcast de présentation d'Isabelle, où on te connaît un peu mieux. Marseillaise qui aurait pu dans une autre vie ouvrir un restaurant à Marseille et qui finalement aujourd'hui est au comité de direction de Miracle. Et qui pilote la stratégie produit. On passe à Miracle pour rentrer un petit peu plus sur ce que vous faites. Encore une question qui peut paraître facile, mais qui ne l'est pas si souvent. On a beaucoup de... Donc, tout le monde connaît beaucoup de pure players, de licornes ces dernières années. Mmh. Et je remarque que souvent, les gens ont du mal à comprendre ou être capables de pitcher, tu vois, de manière très simple ce que fait tel ou tel scale-up. Est-ce que tu peux nous... parler de Miracle et nous dire de manière assez vulgaire ce que vous faites au quotidien.
Écoute, je vais essayer de le faire rapidement. En fait, aujourd'hui, Miracle, notre objectif principal, c'est vraiment de donner les moyens, les outils, l'expertise à nos clients pour se battre à armes égales face à des géants de la tech. Ce que ça veut dire concrètement, aujourd'hui, nos clients, ce sont aussi bien les grands distributeurs, les acteurs du B2B, des noms que vous allez connaître, Carrefour, Maison du Monde, mais également Macy's aux États-Unis, ou encore des acteurs du B2B comme Airbus ou Accor, qui nous font confiance en fait pour les aider à adopter ce qu'on appelle l'économie de plateforme, c'est-à-dire de lancer leur propre marketplace. Mais au-delà de la marketplace, on les aide aussi à repenser entièrement leur business en ligne et on leur apporte un certain nombre de services qui leur permettent notamment de trouver des nouvelles sources de revenus, mais également des moyens de monétiser finalement encore plus leur trafic avec de la publicité, optimiser leur flux financier avec des moyens, des outils autour des flux financiers, etc. Mais vraiment, notre cœur de métier initialement chez Miracle, c'est aider ces sociétés à lancer leur marketplace. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la marketplace... Je vais quand même essayer de t'expliquer ça. Je suis sûre que tout le monde a déjà acheté en ligne sur un site de e-commerce. Et il faut savoir qu'on peut aussi bien acheter directement via le distributeur. Mm-hmm. Par exemple, si vous allez sur Galerie Lafayette, vous pouvez acheter les produits vendus directement par Galerie Lafayette. Mais vous pouvez aussi acheter des produits qui viennent de vendeurs tiers. Okay. Et en fait, Galerie Lafayette invite des vendeurs tiers sur son site de e-commerce pour pouvoir enrichir son offre, avoir encore plus de choses à offrir à leurs clients, les fidéliser et puis éventuellement attirer des nouveaux clients parce que l'offre est enrichie. Et donc, c'est un cercle vertueux qui se crée où Galerie Lafayette a une audience qualifiée, des vendeurs tiers peuvent en bénéficier à moindre coût et Galerie Lafayette peut continuer à satisfaire leurs clients. Donc voilà, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est aussi bien la technologie, mais aussi du conseil. Parce que lancer un nouveau modèle d'affaires, c'est pas juste on branche un outil et c'est parti. Il faut effectivement réfléchir à sa stratégie, quelle équipe il faut, comment on s'organise pour y arriver. Et ça, Miracle, on accompagne aussi nos clients dans ce sens-là.
Ok, c'est très très clair. Ouais. On en sait un petit peu plus sur Miracle et on comprend pourquoi tu les as rejoints. Mais quelle est la valeur qui te parle le plus?
Écoute... C'est intéressant parce que, bon, je suppose comme beaucoup d'entreprises, on a des valeurs qu'on aime bien répéter, qui sont autour du travail collectif, qui sont autour essayer d'atteindre nos objectifs, mais celle qui me parle le plus, c'est vraiment autour de la satisfaction du client. On a une de nos valeurs qui s'appelle Empower and Satisfy Clients. Mm-hmm. Et pourquoi c'est important pour moi, qui suis dans le produit, c'est qu'en fait, tout tourne autour de l'utilisateur. Ce que je répète souvent à mes équipes, c'est on veut développer des choses qui vont apporter de la valeur à nos clients et qui vont leur servir. On ne veut pas développer des choses que personne ne veut utiliser, sinon bon, on a un peu perdu notre temps. Et donc, c'est hyper important de garder cette compréhension des problèmes que nos utilisateurs ont à faire face au quotidien, passer du temps avec eux et puis vraiment réfléchir autour du produit pour arriver à cette satisfaction qui n'est pas artificielle. Hein. C'est vraiment du temps en discovery, en interview, en analyse de données quantitatives qui nous permettent de dire « Ok, on a bien compris ce que le client attendait, voilà pourquoi on développe ce qu'on développe. »
Très clair. Mais effectivement, j'imagine quand tu es passionné de produits et quand tu avais envie d'avoir... un rôle hyper significatif, c'était assez primordial de rejoindre une société qui allait placer un peu les efforts clients en ce sens, c'est pas juste une fonction produit qui est un peu moins mise en avant, quoi.
Oui, et puis moi, ce qui m'a convaincu que ce n'était pas juste un tableau qu'on mettait sur le mur pour dire qu'on était customer-centric, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de l'entreprise qui s'appelle Customer Success, et leur objectif, c'est principalement de dire comment est-ce que les clients réussissent. C'est-à-dire que l'objectif au quotidien de toute l'équipe Customer Success, c'est de conseiller nos clients et pas de leur vendre des choses. Hein. Les équipes commerciales sont encore d'autres équipes. Leurs objectifs, c'est comment est-ce qu'on s'assure que le chiffre d'affaires des clients de la marketplace, par exemple, continue à grossir et quels sont les moyens qu'on peut leur donner pour y arriver.
Ok.
Super clair. Ça représente combien de personnes, tes équipes, aujourd'hui ?
Alors, si je parle de product engineering au global, on est à 300 personnes aujourd'hui, dont 50 aux produits en particulier, product manager, des product designers. C'est une belle équipe que j'essaye de garder la plus diversifiée possible. Moi, je suis assez fière, en fait, dans mon équipe aujourd'hui, d'avoir 50% d'hommes et femmes, aussi bien au niveau contributeur individuel que management. Et c'est un sujet, comme vous avez compris, qui m'importe un petit peu.
Oui, t'as presque répondu à la prochaine question qu'on voulait te poser. C'était un petit peu ça, c'était savoir à titre perso comment t'arrivais à travailler sur ce côté diversité au sein de tes équipes, le mettre en avant et puis travailler dessus. Mais bon, on comprend que c'est quelque chose que t'as l'air de faire au quotidien. Si t'arrives à avoir 50% au côté produit, c'est déjà très chouette, quoi.
Moi, je ne suis pas partie du principe qu'il fallait avoir des quotas. Je suis plutôt partie du principe qu'il fallait se donner les moyens pour avoir une équipe le plus diversifiée possible. Et ça veut dire commencer dès le moment où on commence à recruter, s'assurer. Moi, je m'assure personnellement que déjà les annonces soient écrites pour ne pas rebuter certains types de candidats. On s'assure aussi en fait, qu'on a suffisamment de diversité au niveau des candidats qui nous sont amenés. La diversité, ce n'est pas que la diversité de genre, c'est aussi le background. J'aime pas avoir des profils types parce que certaines écoles, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est les compétences et l'expertise que la personne peut amener. Et donc ça, si on n'a pas eu un certain nombre de candidats qui sont suffisamment diversifiés, on va attendre d'avoir ce niveau de diversité. Et après, finalement, avec ce mindset, les choses se font assez naturellement. Et quand j'ai sorti les chiffres pour le podcast, j'étais assez surprise qu'on était vraiment à 50-50 et il n'y avait pas une recherche spécifique de dire qu'il fallait absolument... Voilà.
C'est plus dès la phase de recrutement initial d'être beaucoup plus ouvert que certaines boîtes qui peuvent parfois te dire on target que 3-4 écoles et forcément ça, de base, le funnel est un petit peu bloqué, quoi.
Exactement.
Ok.
Et après, je pense qu'il y a un aspect aussi d'accompagnement de la progression de carrière. Alors ça, pour le coup, je trouve que les femmes ont moins tendance à bien envisager comment piloter leur carrière. Et donc là, on a mis en place aussi tout un catalogue de formation, de coaching, de développement personnel, qui est ouvert à l'ensemble des employés, bien sûr, mais... parfois, il faut pousser un petit peu certaines personnes à saisir ces opportunités-là. Et je remarque que c'est souvent plus les femmes que les hommes qui saisissent ces opportunités de formation.
Ok. Eh bien, écoute, c'est hyper clair. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs de ce podcast, peut-être qui sont dans des fonctions produits, design, de rejoindre, de postuler aux futures annonces que tu mettras en ligne.
Et justement, en parlant des choses que vous avez mises en place en interne et des opportunités, il y a évidemment le recrutement, mais il y a aussi la rétention et l'ascension des profils tech. Vous avez mis en place une initiative que je trouve très chouette, qui est la Tech Academy. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement ?
Oui, bien sûr. En fait, la Tech Academy, on est parti du principe que on ne peut pas demander aux candidats qu'on essaie de recruter de connaître parfaitement notre stack technique et d'être opérationnel dès le jour 1, sinon ça nous réduit déjà le pool de candidats dans lequel on pourrait recruter, mais c'est surtout aussi d'avoir ce sas finalement de transition entre leur ancien poste et le nouveau. Et donc pour tous les nouveaux développeurs, on leur propose un programme pendant 2 mois d'intégration, de formation à notre stack technique, et ça leur permet vraiment, pour ceux qui ne connaissent peut-être même pas du tout, par exemple, notre stack, d'avoir les bonnes bases et en fait de pouvoir finalement contribuer assez rapidement. Et donc ça veut dire que nous, on cherche surtout, par exemple, des Java développeurs. Si la personne ne fait pas de Java, on va les accompagner dans la formation pour être sûr que... on a surtout des talents avec une envie d'apprendre et qui puissent venir à s'insérer facilement finalement dans l'environnement Miracle. Et après, comme je le disais, on a un catalogue de formation qui permet de continuer à se former tout au long de leur présence chez Miracle, que ce soit sur des soft skills ou des hard skills. Mm-hmm. Et ça n'a jamais été un sujet chez nous quand un employé nous a demandé une formation en général. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup, effectivement pour la rétention, mais aussi pour développer nos talents vers les besoins qui évoluent assez rapidement aussi de l'entreprise.
Mais écoute, c'est top parce que tu nous as donné sur ces dernières questions pas mal d'éléments assez différenciants, je trouve, qui peuvent donner envie à des très bons profils de rejoindre Miracle. Mmh. J'ai noté que ce soit sur le fait que vous soyez ultra product-centric, très attaché à créer de la valeur à vos clients, sur une ouverture d'esprit, j'ai la sensation, sur le recrutement, pas forcément targeter telle ou telle école, mais plutôt être assez ouvert. Et puis après, sur de la rétention, de l'accompagnement, des parcours de carrière. À quoi est-ce que tu penses peut-être comme autre élément qui pourrait donner envie à des talents de vous rejoindre, toujours dans ce contexte de tension sur les profils techniques, produits, où on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent de recruter. Voilà. À quoi est-ce que tu penses qui pourrait peut-être faire la différence pour vous ?
Alors effectivement, comme j'ai dit, on a un focus très important sur la formation, mais j'allais dire, il y a un chiffre qui est hyper intéressant chez nous, c'est que l'ancienneté moyenne dans les équipes labs, c'est 4 ans et demi. La raison pour laquelle l'ancienneté est aussi importante, je pense que ce n'est pas forcément le cas de beaucoup d'entreprises, pour moi, je l'explique pour 2 raisons. La première, c'est que les gens, ils restent quand ils ont des choses intéressantes à faire et que les projets sur lesquels ils travaillent sont motivants. Et en fait, en réalité, si on réfléchit aux plus de 400 clients de Miracle qui sont dans une quarantaine de pays, on a une diversité de challenges professionnels qui sont assez importants. Nos 200 plus grands clients, ça représente 1,2 milliard de visites mensuelles, donc on a aussi un impact assez fort. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a une ancienneté aussi importante. La deuxième, c'est les personnes. J'aurais peut-être dû commencer par là. Souvent, les gens restent parce qu'ils adorent les gens avec qui ils travaillent, parce qu'ils apprennent des gens avec qui ils travaillent, et on a la chance d'avoir des gens qui ont une expertise incroyable. Et surtout, dans l'équipe technique, on a quand même des personnes qui sont connues et reconnues dans l'écosystème. Et donc, cet aspect de pouvoir apprendre des uns des autres, d'être challengé par les uns les autres, je pense que ça, c'est un élément aussi fort de rétention.
Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Alors, on te dira surtout pas le contraire, parce que c'est vrai que côté cabinet de recrutement, moi, en tant que chasseur de tête, je partage à 1000% ce que tu viens de dire. C'est quasiment souvent une des motivations des gens pour changer de job. C'est quand ils te disent un petit peu souvent cette phrase bateau de « j'atteins un plafond de verre, j'ai fait le tour, je progresse plus, je monte plus en compétence, il n'y a personne pour me challenger ». Et c'est vrai que si tu as la sensation qu'aujourd'hui, vous pouvez garder des gens plus de 3 ans déjà dans une boîte tech, c'est déjà plus que la moyenne, par des gens hyper experts, et avoir la sensation d'être dans une boîte hyper galvanisante où tu apprends en permanence, où tu peux t'être challengé, c'est forcément un super point, quoi. Donc merci beaucoup pour ces infos sur Miracle.
Merci Isabelle. On va passer à une nouvelle partie de cet épisode parce qu'on a parlé de toi, on a parlé de Miracle. Et maintenant, on va parler d'un sujet tout aussi important qui est Technovation Girls. Tu nous disais qu'un des freins pour avoir plus de femmes dans ces équipes tech est tout simplement le manque de profils disponibles. Et Technovation Girls est une association qui travaille sur cette problématique. Peux-tu m'en parler, me présenter l'association et le chapter France ?
Oui, avec plaisir. Technovation Girls, c'est une organisation internationale qui est née dans la Silicon Valley en 2006. Et depuis 2006, c'est un programme qui encourage les collégiennes, les lycéennes à s'intéresser aux métiers de la tech, à apprendre des bases de code, d'intelligence artificielle, mais surtout à être motivées, à les inspirer finalement à devenir les futurs entrepreneurs de la tech. C'est plus de 140 000 jeunes filles qui ont été formées depuis 2006 dans une centaine de pays. Et c'est une association que j'ai rencontrée quand j'ai passé du temps au Canada. Et quand je suis rentrée en France il y a quelques temps, je les ai recontactées pour leur demander ben voilà, j'ai envie de continuer comme on fait. Et en fait, l'association existe partout dans le monde, sauf en France. Donc on m'a proposé de, bah, d'ouvrir ce chapitre français. Et je l'ai fait avec plaisir avec quatre autres femmes très talentueuses aussi du monde de la tech française. Et voilà, depuis janvier de cette année, on a monté l'entité française de Technovation Girls. On a lancé très rapidement l'association en janvier et la première saison a commencé trois semaines après. Oui. Donc, on a fait comme on fait en produit, c'est-à-dire qu'on a fait un MVP de l'association. On avait une douzaine de jeunes filles, on avait des mentors qui les ont accompagnées. Et voilà, l'idée, c'était que pendant 3-4 mois, les filles apprennent les bases de code, l'intelligence artificielle, comment pitcher son idée, c'est quoi un business case. Et à la fin, en fait, elles développent une application mobile qui a pour objectif vraiment de résoudre un problème de société fort. Okay. Et nos trois premiers groupes, notre première promo, a travaillé sur des sujets hyper intéressants et c'est des sujets qu'elles ont amenés elles-mêmes. Et c'est des jeunes filles qui ont 13-14 ans et qui voulaient résoudre aussi bien le problème du cyberharcèlement que les problèmes de mobilité des personnes à mobilité réduite. Les déserts médicaux. Et donc, elles ont travaillé sur des applications mobiles sur ces thèmes-là. Et un de nos groupes est arrivé jusqu'en quart de finale de la compétition internationale qui est organisée par Technovation Girls. Donc, très, très fière de cette première promo. Et là, il y a quelques jours, on a lancé notre deuxième saison avec notre deuxième promo. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de jeunes filles et de mentors qui commencent cette nouvelle saison. Et je pense qu'on a bon espoir d'aller encore plus loin dans la compétition cette année.
Vous avez lancé une nouvelle édition la semaine dernière. Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du concours, nous donner un peu d'infos pour que nos auditeurs, auditrices qui seraient intéressés puissent en parler autour d'eux ou se renseigner ou peut-être même participer ?
Oui, bien sûr. Alors, comme toute association, on recherche toujours des bénévoles qui ont un peu de temps libre à nous aider pour faire connaître l'association, pour nous aider à organiser des événements pour les jeunes filles. Donc ça, voilà, si parmi les auditeurs aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de consacrer du temps pour cette cause, on sera ravis de les accueillir au sein de l'association. Après, pour que ce programme réussisse, en fait, on fait accompagner nos jeunes filles par des mentors. C'est aussi bien des mentors techniques qui ont une compétence sur du code que des mentors avec des compétences plus business. Et voilà, si des personnes sont intéressées à nous rejoindre dans les prochaines saisons en tant que mentor, c'est 2 heures par semaine. Effectivement, ça dure 3-4 mois, donc c'est un engagement un peu plus fort. Oui. Mais à chaque fois qu'on fait des événements, qu'on retrouve les mentors, ils ont quelque chose qui a changé chez eux. On sent que le fait de contribuer à ce genre de cause, ça leur apporte beaucoup. Le fait de travailler avec des jeunes, ça leur apporte aussi beaucoup et ça les change finalement de leur quotidien. Et je pense que c'est finalement une expérience qui est très enrichissante des deux côtés, aussi bien pour les jeunes filles que pour les mentors. D'ailleurs, on a cette saison beaucoup d'alumni de Centrale Supélec qui nous accompagnent. Et c'est hyper intéressant d'avoir des profils comme ça qui accompagnent des jeunes filles qui viennent aussi bien de Paris, mais que de quartiers populaires, que de zones rurales, parce qu'on a une forte composante égalité des chances dans notre approche. Et voilà, donc des mentors, des bénévoles, ou tout simplement parler de nous, c'est peut-être la chose la plus simple. Nous suivre sur LinkedIn, nous suivre sur Instagram et repartager nos communications, ça nous aide toujours à pouvoir atteindre une plus grande audience, notamment auprès des jeunes filles.
Avec plaisir.
Merci beaucoup pour cette présentation de l'association qu'on aime beaucoup.
Et merci à Mobiskill de nous accompagner. Je tiens quand même à le dire.
Avec plaisir.
Mobiskill est un partenaire incroyable pour l'association et donc on vous remercie beaucoup au nom de tout le bureau.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Isabelle.
Pour finir cet épisode, on va revenir un petit peu sur toi et surtout pour que tu nous donnes un peu des tips à toutes les femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta carrière? Quels sont les obstacles que tu as eu à surmonter et qui t'ont vraiment impacté?
Je pense que je répondrai à ça de plusieurs façons. Moi, j'ai grandi dans une famille d'immigrés mm-hmm. où on ne connaissait pas le concept des grandes écoles, ouais. Où bon, c'était très bien de travailler à l'école, mais après, au-delà de ça, quel parcours choisir, etc. Mm. Et je pense que ce qui m'a aidée à finalement prendre, entre guillemets, le chemin que j'ai pris aujourd'hui, c'est les rencontres et aller chercher l'information auprès des bonnes personnes. Et ça a été vrai tout au long de ma carrière, c'est-à-dire que pour m'aider parfois dans des décisions difficiles ou aller vers des territoires peut-être inconnus où j'avais pas forcément ce réseau que d'autres pourraient avoir, je me suis beaucoup appuyée sur des personnes que j'ai estimées être des experts sur le sujet ou qui pouvaient devenir des mentors. Et donc moi, je pense que c'est hyper important quand on va au travers de situations peut-être un peu d'incertitude, de s'appuyer sur les autres, d'aller trouver son manager, un ancien manager, un collègue, des mentors qu'on pourrait identifier pour nous accompagner au travers de ces moments un peu difficiles. Donc voilà, pour moi, le premier obstacle, c'est comment on rentre, comment on arrive à adresser ces moments d'incertitude. On n'a personne autour dans son entourage immédiat. Mais en fait, quand on ouvre un peu ses chakras, on se rend compte que le réseau, finalement, c'est ses collègues, c'est la prof d'espagnol qui me parle de classe préparatoire en écono, voilà. Enfin, il ne faut pas se dire qu'on n'a pas de réseau. En fait, on en a un, mais il faut aller le solliciter. Ouais. Et en fait, ça permet de tirer des pelotes. Et l'autre aspect, je pense qu'il est, en tant que femme dans la tech, qui peut être... important, c'est on a toujours cette question de comment est-ce qu'on arrive à gérer l'équilibre pro-perso. Et en fait, avec le temps, ce que je me rends compte aussi, c'est en fait, il faut choisir l'environnement qui va être favorable à ce genre de thématique. C'est-à-dire que effectivement, les cultures d'entreprise sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Et je pense que c'est des aspects qu'il faut être capable d'évaluer quand on rejoint une entreprise, de dire est-ce que c'est un environnement qui est favorable et qui met l'employé au cœur de sa stratégie, de sa culture. Et en fait, ça ne peut marcher que finalement si c'est déjà quelque chose qui fait partie prenante de l'entreprise. Donc voilà, je pense que c'est important ces deux aspects de l'incertitude, comment prendre des décisions d'un côté et comment gérer pro, perso, d'avoir ces choses un peu en tête.
Pour terminer, quels tips, quels conseils est-ce que tu pourrais donner à une femme, une jeune femme qui se lance dans la tech, qu'elle soit par exemple étudiante en école d'ingénieur, qu'elle soit vraiment en tout début de carrière ou qu'elle soit déjà dans le monde du travail, tu vois, jeune développeuse dans une société ou même, j'imagine, quelqu'un en reconversion qui serait en train de terminer un bootcamp, le wagon, ce genre de structure et qui démarre.
Eh bien, j'ai envie de dire, et je vais me répéter, je suis désolée, mais il faut vraiment s'appuyer sur la communauté et le réseau. Aujourd'hui, on a la chance, en fait, avec la preuve en a avec ce podcast, avec des initiatives comme 15 Tech, comme l'Avant-Garde. Il y a énormément de communautés aujourd'hui qui se sont développées justement pour accompagner et aider aussi bien des jeunes diplômés qui sont peut-être un peu perdus en sortie d'école que des personnes un peu plus seniors dans leur rôle et qui doivent passer un cap, par exemple contributeur individuel à manager. Et ces communautés, en fait, elles sont là pourquoi? Elles sont là parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus simple quand on est à plusieurs que tout seul, de bénéficier de l'expertise, de l'expérience de d'autres personnes.
Et ça, je trouve qu'il y a une offre incroyable. Il faut aller la chercher peut-être parfois un petit peu, mais il faut s'appuyer sur ces réseaux-là, cette communauté-là. Parfois, c'est ouvrir une porte pour un poste. Parfois, c'est des conseils. Parfois, c'est aussi l'accompagnement en mentorat qui peut aider au travers de la réflexion du parcours professionnel. Moi, je vais prendre l'exemple de Leader, qui est encore une autre communauté pour, avec qui je travaille, où j'accompagne en fait des jeunes femmes qui sont encore dans leur parcours éducatif, enfin qui sont en train de suivre leurs études, et de les aider dans cette réflexion du parcours professionnel. Bah, effectivement, pour des gens plus expérimentés, je recommande de donner du temps si c'est possible, mais surtout pour toutes ces autres jeunes femmes et les plus expérimentées, de continuer à s'appuyer sur le réseau, aller chercher des mentors. Et puis, si vous connaissez personne, allez sur LinkedIn, trouvez les personnes qui vous inspirent le plus, écrivez-leur. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils ne vous répondent pas. Mais le mieux qui puisse arriver, c'est que vous allez prendre un café, ça peut devenir un mentor, ça peut devenir un conseil. Et c'est incroyable, il faut juste tester. Cette puissance du réseau, on ne se rend pas compte, mais ça ouvre vraiment beaucoup de portes et ça aide vraiment tout au long de la carrière.
Ok, donc il y a toute une multitude d'acteurs qui sont presque invisibles, mais qui sont à portée de main, plus ou moins proches, qui demandent qu'à être sollicités, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, la notion de réseau, j'ai l'impression que c'est une thématique un peu du moment où beaucoup de gens se rendent compte, évidemment, avec des outils comme LinkedIn aussi et toutes les structures dont tu parlais, qu'on peut le créer, le solidifier, le développer de manière incroyable aujourd'hui, et peut-être qu'on pouvait peut-être pas même le faire autant il y a 10, 15, 20 ans, quoi.
Oui, c'est aussi le bon côté des réseaux sociaux.
Ouais. Oui.
Parfait. Merci beaucoup Isabelle pour ton témoignage et tes conseils. Ils sont précieux. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Raise.
Merci beaucoup Darcy, merci Pierre.
Merci beaucoup Isabelle, à bientôt.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raise.